choses vont petit à petit s'éclaircir. Alors nous apportons aujourd'hui trois précurseurs de la philosophie chrétienne réformée et les noms de ces trois précurseurs, Augustin, Calvin et Kuyper. Alors, tout d'abord, Augustin. Augustin, 354-430. Est l'auteur de nombreux ouvrages dont je pense que vous devez, au cours de vos études, ensuite lire les œuvres d'essentiel. Tout d'abord, il y a les confessions qui sont de la fin des toutes dernières années du 3e siècle, du 4e siècle, disons entre 397 et 400, on ne sait pas exactement. C'est un livre très extraordinaire parce que, tout en étant une autobiographie d'Augustin, c'est aussi un livre d'enseignement. Et je pense qu'il faut absolument lire les Confessions. Autre livre d'Augustin sont De Doctrina Christiana, de la doctrine chrétienne, qu'il a publié au long des 20 ou 30 premières années du 5e siècle, disons en gros entre 400 et 430. Ce livre, De Doctrina Christiana, est très important à lire pour nous théologiens, et je dirais pour les chrétiens en général, parce qu'il donne les principes d'interprétation et de compréhension de la Bible. Et pratiquement, je crois que les principes d'interprétation de la Bible que donne Augustin dans ce livre des Doctrina Christiana sont toujours valables aujourd'hui. Un autre livre de la même époque, donc à peu près des mêmes années, c'est son De Trinitate, au sujet de la Trinité, De Trinitate. Un livre aussi important. Et enfin, je cite un dernier livre qui est le plus important pour notre propos d'aujourd'hui, c'est le De Civitate Dei. On a traduit cela tout simplement par la cité de Dieu. Alors là, il l'a écrit aussi dans les mêmes années, mais alors un peu plus tard, c'est non pas entre 400 et 430, mais plutôt entre 415 et 430. Je ne vous donne pas tous les ouvrages d'Augustin. Il y a d'autres ouvrages extrêmement importants d'Augustin, comme par exemple son commentaire sur les psaumes, mais je préfère vous donner les titres des ouvrages qui ont rapport avec notre sujet de cette année. Donc, les Confessions, la doctrine chrétienne, la Trinité et la cité de Dieu. Ce dernier livre, je vous l'ai dit, en rapport avec notre propos, Augustin l'a écrit dans des circonstances dramatiques. Le 24 août 410, les Goths conduits par leur chef Alaric s'étaient emparés de Rome. Il faut voir ce que ça pouvait représenter. C'était un événement historique ressenti dramatiquement par tous les habitants de l'Empire romain. La ville, c'est comme ça que les Romains appelaient Rome, c'était la ville. Burs, c'était la ville. La ville avait été prise. Le centre, la capitale de l'Empire, voilà que les barbares s'en étaient emparés. Et alors, curieusement, c'était une époque où il y avait encore beaucoup de païens dans l'Empire et jusque dans Rome. Au fond, les païens ont pris prétexte de la prise de Rome par Alaric pour dire, eh bien voilà le résultat l'abandon du culte des dieux. Et les chrétiens sont les responsables de l'abandon du culte des dieux. On a renversé les autels, on a renversé les divinités qui protégeaient l'Empire. Eh bien, le châtiment des dieux est là. C'est la faute des chrétiens si l'Empire vient d'être mortellement atteint. Et en fait, on peut dire que l'Empire romain, en Occident, du moins, plutôt que l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident ne s'est jamais relevé de ce coup. La prise de Rome par Alaric en 410, c'est une date charnière de l'histoire. Et alors, Augustin, dans son La Cité de Dieu, dans son De Civitate Dei, eh bien, il veut répondre aux païens. Et en même temps qu'une réponse apologétique, vous savez que le mot apologie veut dire défense, donc une défense de la foi chrétienne contre les accusations des païens, mais en plus de cela, c'est le premier grand essai d'une philosophie de l'histoire, d'une vision chrétienne de l'histoire. Et c'est un bouquin auquel Augustin travailla pendant 14 ans. Et pour lui, il y a deux cités qui s'opposent l'une à l'autre. Il y a la Civitas Dei, la cité de Dieu, et il y a la Civitas Terrena, la cité terrestre. La cité de Dieu et la cité du Christ, c'est la cité du bien, et évidemment la cité terrestre, c'est la cité de l'adversaire, c'est la cité du mal. Déjà dans un petit bouquin qui s'appelait De la catéchèse des ignorants, et qu'il avait publié donc peut-être 15 ans auparavant, Augustin avait écrit, je cite, « Il y a deux cités, l'une est celle des méchants, l'autre est celle des saints. Elles durent depuis le commencement du genre humain jusqu'à la fin du monde. Maintenant, elles sont mêlées par les corps, mais séparées par les volontés. Au jour du jugement, elles seront séparées même par les corps. Jérusalem et cette splendide cité de Dieu, dont tous les hommes saints sont citoyens, à Jérusalem, bien sûr au sens de la Jérusalem céleste, Jérusalem, cette splendide cité de Dieu, dont les hommes saints sont citoyens, Jérusalem signifie la cité et la société des saints, tandis que Babylone signifie la cité et la société des impies. Vous savez que on trouve l'opposition des deux cités de tout au long de la Bible. Vous savez que déjà dans la Genèse, il y a Salem, qui donnera donc Jérusalem, hein, et puis vous avez Babel, qui donnera Babylone. Alors dès la Genèse, il est question de Salem et de Babel. Et dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, il est question de Jérusalem, la cité de Dieu, et en opposition, l'Apocalypse nous décrit Babylone, la cité adverse. Donc, je vous dis, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à travers toute la Bible, au fond, il y a déjà le conflit des deux cités, et c'est ce que Augustin avait déjà affirmé dans sa catéchèse des ignorants, mais il va reprendre la chose, il va la développer considérablement dans son livre sur la cité de Dieu. Et j'ai même trouvé dans le commentaire Augustin, parce qu'il se trouve que par chance j'ai le commentaire d'Augustin sur le psaume, il y a dans son commentaire sur le psaume 64, Augustin dit, alors là je. Oui, je vous lis le latin qui je traduis aussi. Dieu assista civitates facion Dieu amores, ces deux cités font deux amours, Jérusalem facit amor dei, la Jérusalem fait l'amour de Dieu, et Babyloniam facit amor sepui, Babylone fait l'amour du ciel. Augustin va plus loin, même dans la cité de Dorbeau, comme ça, en passant, il voit déjà une opposition entre, parmi les anges, entre les anges qui sont restés fidèles et les anges qui ont été déchus. Et alors finalement, mais il y a donc un conflit entre Dieu et ses anges fidèles d'une part, et Satan, conducteur des anges déchus d'autre part. Et alors au fond, pour saint Augustin, le conflit a commencé avant même la création des hommes. Hein. Et puis alors les hommes, en la personne d'Adam et d'Ève, ont été tentés par les anges déchus, en particulier par le serpent, et le symbole et le signe et l'incarnation en quelque sorte de Satan. Et alors, au fond, c'est un conflit qui remonte très haut et qui est très mystérieux, parce qu'on peut toujours la penser, comment une créature de Dieu comme les anges, que Dieu avait créé bon, ont-ils pu être démonisés, et comment des hommes que Dieu, des êtres humains que Dieu avait créés bons, comme Adam et Ève, ont pu déchoir. Alors, Augustin pousse la chose. Il commence avec, ensuite au point de vue terrestre, après avoir parlé des anges, des déchus, il commence avec Adam et Ève. Et alors, il y a la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ensuite, il y a tout de suite Abel d'un côté, Cain de l'autre. Et finalement, dans sa description du conflit entre la cité de Dieu et la cité terrestre, Augustin parcourt toute la Bible. Il parcourt toute la Bible. Et il a une parole qui est très belle, c'est au chapitre 14 de la cité de Dieu, et au verset et au paragraphe 28. Il parle de ceux qui aiment Dieu jusqu'au mépris d'eux-mêmes, et ceux qui s'aiment eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu. C'est une phrase caractéristique de saint Augustin, mais qui est très belle. Voilà. Il évoque donc le conflit de ceux qui aiment Dieu jusqu'au mépris d'eux-mêmes, ça c'est la cité de Dieu, et ceux qui s'aiment eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu, ça c'est la cité terrestre. Alors évidemment, vous serez peut-être déconcerté, les confessions, le livre des confessions se tient très bien, c'est un livre magnifiquement organisé. Tandis que la cité de Dieu, qui a cependant été, Augustin a mis 14 ans pour les tiers. La cité de Dieu est pleine de parenthèses, de répétitions, de digressions. On dirait que Augustin s'est laissé conduire par une liberté capricieuse, mais en même temps, c'est une liberté tellement ardente qu'on est employé, qu'on est saisi. Enfin, moi je sais que j'étais jeune, j'avais un âge lorsque j'ai lu la cité de Dieu, j'étais dans l'édition du classique Garnier, c'était en deux volumes. Eh bien, si vous voulez, on est empoigné. Bien sûr, quelquefois on perd le fil, mais c'est parce qu'Augustin ne peut pas s'empêcher de se répéter, de faire des parenthèses, d'ouvrir des parenthèses qu'il ne ferme pas toujours d'ailleurs. Mais si vous voulez, on est plongé dans un livre un peu touffu, mais je dirais, il y a une telle ardeur, je dirais, un tel élan dans ce livre, que quand même on le lit facilement. Enfin, moi j'ai l'impression, évidemment, je ne l'ai plus relu à la file, j'en ai relu des passages, mais je me souviens que quand j'ai lu la cité de Dieu, j'ai été employé et j'ai trouvé ça passionnant. Et à travers ce conflit entre les deux cités, Dieu poursuit efficacement le dessein de sa grâce souveraine. Autrement dit, Dieu reste quand même le maître. Mais il ne faut pas faire, il n'est pas tombé du tout dans un dualisme. Vous savez que la religion perse de Zoroastre, eh bien c'est un dualisme. Il y a d'un côté le dieu de la lumière, de l'autre côté le dieu des ténèbres, il y a un conflit entre deux divinités, en somme qui sont à égalité. Tandis que pour Augustin, c'est pas du tout ça. Bien sûr, il y a un conflit entre la cité de Dieu et la cité terrestre, mais c'est Dieu qui reste le maître du champ de bataille. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a poursuit et ce dessein jusqu'à la victoire finale. Il n'y a pas de question, ce n'est pas un dualisme où la puissance des ténèbres et la puissance de la lumière seraient en quelque chose à égalité, comme dans les vieilles religions iraniennes. Mais c'est vraiment, au contraire, Dieu qui souverainement mène son affaire au travers de ce conflit. Et alors, il y a l'aboutissement eschatologique, l'aboutissement final de ce conflit, de cette antithèse des deux cités. Alors, c'est la phrase que je vous lis d'Augustin, Una predestinata est in eternum regnare cum Deo, l'une est prédestinée à régner éternellement avec Dieu, altera eternum supplicium subire cum diabolo, et l'autre est vouée au supplice éternel avec le diable. Ça, c'est dans la cité de Dieu, au chapitre 15 et au paragraphe 1. Et alors, c'est à partir de ce moment-là que s'accomplira la séparation définitive des deux cités qui, pour le moment, sont mêlées. Là, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit au sujet de blé et de livret qui croissent ensemble. Hein. Bon, mais à la fin, livret et le blé sont séparés, et là, les membres de la cité de Dieu seront séparés des membres de la cité terrestre, encore que maintenant, bien sûr, au cours de l'histoire, les deux cités sont mêlées. Les deux cités sont confondues. Et alors tout s'achève par la transfiguration de l'univers et les justes ressuscités vivront le grand sabbat éternel, le grand repos éternel. Alors, c'est intéressant de voir que pour Augustin, il y a un conflit, il y a une opposition, il y a une antithèse qui dure tout au long de l'histoire, et je dirais qui fait que les membres d'une des cités et les membres de l'autre cité sont en conflit, j'allais dire, sur tous les terrains. Augustin montre bien que c'est pas une opposition d'ailleurs qui est tellement physique. Non, c'est une opposition spirituelle, et c'est une opposition dans le domaine de la pensée, c'est une opposition dans le domaine de la volonté, c'est une opposition, bref, en tout aspect de l'existence. Et, vous savez que c'est dans le livre des Confessions, c'est la première phrase, c'est dans la première page et dans le premier paragraphe des Confessions, qu'Augustin a la fameuse phrase « Tu nous as fait pour toi, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet, bon, ça c'est au sens étymologique latin, c'est-à-dire sans repos, notre cœur est sans repos, est inquiet, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à la parole de Jésus. Celui qui passe d'après moi et contre moi. La racine néo-testamentaire de la pensée d'Augustin, c'est une racine commune. Parce que dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 12 et 19, Éphésiens 2, verset 12 et 19, voilà ce que dit saint Paul. En ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous êtes concitoyens des saints, membres de la cité de Dieu. Et là, déjà, on trouve chez saint Paul l'idée des deux cités. Évidemment, saint Paul ne parle pas des deux cités, mais il parle d'une part de ceux qui ont droit de cité en Israël, et d'autre part, alors vous étiez autrefois sans droit de cité en Israël, donc vous ne faites pas partie de la cité de Dieu, mais en Jésus-Christ, vous êtes maintenant concitoyens des saints. Des saints. Et dans Philippiens, au chapitre 3 et au verset 20, Paul dit « Notre citoyenneté se trouve dans les cieux ». Je ne sais pas comment on a traduit, je ne vais pas regarder comment on a traduit dans la Bible de la Colombe, là, je vous cite un peu le texte grec, dans Philippiens, au chapitre 3, et au verset 20, pour nous, notre cité est dans les cieux. Voilà, mais ça c'est bon. Donc, finalement, dans notre tradition de citoyenneté, de cité, c'est un certain nombre. L'important, c'est qu'il y ait l'idée de cité. Et vous pouvez aussi voir une autre racine néo-testamentaire, non plus chez Paul, cette fois, mais chez Jean. Parce que dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 et au verset 10, Jean dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors là, il n'y a pas l'idée de cité, mais il y a quand même l'idée d'une antithèse entre les enfants de Dieu, d'une part, et les enfants de Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'origine vétérotestamentaire de la chose, alors c'est ce qu'on appelle souvent le protévangile, c'est-à-dire le premier évangile, au livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 16. Au chapitre 3 et au verset 15, je mettrai inimitié, vous pouvez traduire, je mettrai conflit entre toi et la femme, c'est Dieu qui dit ça aussi. Je mettrai conflit entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, elle écrasera le talon. Donc, si vous voulez, on trouve déjà l'idée de ce conflit entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Alors ça, c'est... Donc vous voyez, c'est donc avec un sens biblique très affirmé que saint Augustin parle de ce conflit, de cette antithèse des deux cités. Alors voilà, nous tenons avec Augustin et avec ce conflit ou avec cette antithèse des deux cités une des racines de la philosophie chrétienne réformée. Au fond, si vous voulez, la philosophie chrétienne réformée contemporaine, dont nous aurons à parler dans la suite de ce cours, au fond, a retenu l'enseignement biblique transmis par Augustin, à savoir qu'il y a un conflit entre deux cités et que ce conflit doit aussi être énoncé en philosophie. Autrement dit, en philosophie, il y a conflit entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui le rejettent, entre ceux qui veulent suivre Dieu et ceux qui s'opposent à Dieu. Il n'y a pas de raison pour que le conflit entre les deux cités ne se fasse pas sentir en philosophie comme il doit se faire sentir dans les autres. Je ne vais pas plus loin aujourd'hui en ce qui concerne tout ça. Alors, deuxième précurseur de la philosophie chrétienne réformée, Calvin. Alors, on peut dire, en ce qui concerne Augustin, on pourrait donner comme titre au paragraphe de mon cours d'aujourd'hui sur Augustin, Augustin et l'antithèse. Parce qu'au fond, la clé qu'on retiendra, c'est l'idée d'antithèse. Donc vous pouvez mettre le titre général, donc c'est trois précurseurs, Augustin, Calvin et Kuiper, et le premier paragraphe que je viens de lire, Augustin et l'antithèse. Deuxième paragraphe, Calvin. Alors avec Calvin, on va à parler de deux points, l'idée de loi, ce sera mon premier point, et le motif religieux, création, chute, rédemption, ce sera mon second point. Alors, tout d'abord, l'idée de loi. Je pense que vous connaissez l'acte de Calvin, enfin, je vous les rappelle, il est né en 1509 et il est mort en 1564. Il est donc exactement une génération après Luther. Luther, vous savez qu'on célèbre cette année le cinquième centenaire de sa naissance, il est né en 1483. Exactement 500 ans, il est 1483, et il est mort, lui, en 1546, si vous voulez bien, enfin, vous verrez, d'abord, la deuxième mort de Luther, je ne crois pas que mon Dieu, enfin, je crois que c'est quelque chose comme 1546. Donc, Calvin, lui, vient 26 ans après Luther, 1483 pour Luther, 1509 pour Calvin, ça fait 26 ans après. Calvin est né 26 ans, donc une génération. Après Calvin se situe dans la grande tradition augustine. Alors il est bon de savoir quels ont été les grands docteurs du Moyen-Âge qui ont été eux aussi des augustiniens. Et il faut faire très attention. Notre ami Pierre Chaudu, vous savez, qui est associé dans une faculté, il faut exactement l'occasion de quoi, parce qu'il vient, sinon tous les ans, Pierre Chaudu montre très bien que c'est une erreur. Mais moi, je reviens à l'avoir dit, enfin, il n'a pas tout développé. C'est pas du tout. Tout à coup, au XVIe siècle, paf, la réforme surgit. C'est faux. Bien sûr, il y a eu une réforme au XVIe siècle, mais cette réforme au XVIe siècle n'est pas du tout une innovation totale. Non. Il y a des racines. Et la tradition augustinienne a porté avant Calvin d'autres ordres, et très importants. Alors je vous donne les noms des trois plus importants qu'il faut connaître. Il y a d'abord Anselme de Canterbury. Anselme. Alors, bien sûr, moi je ne dis pas tout le temps Saint-Augustin, Saint-Anselme, mais évidemment, en général, on dit toujours Saint-Augustin, Saint-Anselme. Alors, Anselme de Canterbury, 1033-1109. Bernard de Clairvaux, 1090-1153. Je répète, Bernard de Clairvaux, 1090-1153. Et enfin, Saint Bonaventure, 1217-1264. Alors, c'est très intéressant si vous avez une édition, j'espère que j'ai procuré déjà, si vous n'avez pas fait une édition de l'Institut de Calvin, vous verrez que, en consultant l'index, que l'œuvre de Calvin est bourrée de citations d'Anselme, de Bernard et de Bonaventure. Calvin ne présente pas sa théologie comme une œuvre, c'est comme bien souvent, pour l'exemple classique. Vous savez que dès que vous prononcez devant quelqu'un le mot de Calvin, vous faites surgir quasi inévitablement le mot prédestination. C'est presque automatique. Vous dites Calvin, paf, on vous répond tout de suite. On dirait que Calvin, il a inventé la prédestination. Mais comme vous le savez, la prédestination d'abord elle est dans la Bible, et en particulier dans Saint Paul et dans Saint Jean. La prédestination elle est dans Saint Augustin, la prédestination elle est dans Anselme, dans Bernard et dans Bonaventure. Calvin est dans la stricte tradition augustinienne qui elle-même est sortie de la Bible, sortie du Nouveau Testament. Enfin, c'est bon de vous rappeler qu'il y a eu ces gens avant Calvin. Alors, Calvin a eu une formule que je voudrais que vous expliquiez bien. Alors, je vous l'écris en latin et je vous donnerai la formule, mais notez-la en latin parce que c'est une formule très simple à retenir, même si on comprend bien le latin. Alors, voilà la formule de Calvin. Deus, legibus solitus est, sed non ex lex. Alors ça, si vous voulez, on peut le traduire, je ne traduis pas mot à mot, mais Dieu n'est pas soumis aux lois, Dieu n'est pas soumis aux lois, mais il n'est pas hors la loi. Si on traduit mot à mot, on a Dieu. Et dégagé des lois, des hausses, sommes divers, dégagé des lois, mais non, sans loi. Vous allez voir pourquoi cette affirmation de Calvin a beaucoup d'importance pour notre peuple. Dieu n'est pas soumis aux lois qu'il a établies pour ses créatures, pour sa création et donc pour nous-mêmes. Si vous voulez, c'est en ce sens, c'est une autre manière de dire que Dieu est autonome. Le mot autonome voulant dire loi à soi-même. Tandis que la création, la créature est théonome, c'est-à-dire sous la loi de Dieu. Si vous voulez, je parle d'une autre façon, mais ça vient au même. La loi est en quelque sorte la frontière. Dieu est au-dessus des lois qu'il a établies pour sa création, tandis que les créatures sont sous, placées sous la loi de Dieu ou sous les lois que Dieu a établies. Mais si Dieu est dégagé des lois, si Dieu n'est pas soumis aux lois, il est cependant loi à soi-même, donc il n'est pas hors loi, sans loi. Mais il est loi à soi-même, il est autonome, il est loi à soi-même. C'est-à-dire que Dieu n'est pas soumis aux lois auxquelles nous sommes soumis, mais Dieu est loi à soi-même, ça ne veut pas dire que Dieu est hors la loi. Je vous ai parlé la dernière fois, je crois que c'est pas moi, vous avez parlé d'Ocar. Or, pour Ocar, Dieu, au fond, n'est pas soumis aux lois, mais il n'est même pas loi à soi-même. Il peut, dans ses caprices, décider un jour le contraire de ce qu'il a décidé le jour d'avant. Par exemple, bon, Dieu a établi, ça, c'est un peu beau, Dieu a établi que 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien, s'il plaisait à Dieu, il pourrait décider que 2 plus 2, ça fait 6, ou ça fait 3, ou ça fait... Ouais. Et pour Ockham, donc, Dieu n'est pas soumis aux lois, là, Ockham a raison, Calvin dit la même chose, Dieu n'est pas soumis aux lois, mais pour Ockham, Dieu n'est même pas loi à soi-même. C'est-à-dire que Dieu est pur caprice, Dieu est volonté capricieuse. Dieu peut décider comme ça, puis chanter, tandis que pour Calvin, il y a un lien entre Dieu et la loi, à savoir que Dieu est loi à soi-même. Il est immuable. Il est immuable, il n'est pas capricieux. Il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à lui-même. Donc, c'est ça le point important, c'est que la création est tout entière placée sous la loi de Dieu, et que cette loi de Dieu est en bénédiction à la création. Si la création n'était pas placée sous la loi de Dieu, alors je dirais que toute réflexion serait impossible, toute science serait impossible. Heureusement que la création est établie sous les lois de Dieu, est placée sous les lois de Dieu, parce que c'est ce qui rend notre réflexion possible, c'est ce qui rend la science possible, pour une raison très simple. C'est que justement, le Dieu est un Dieu d'ordre, il n'a pas établi un chaos, il a établi un cosmos. La création n'est pas chaos, ce qu'elle serait si elle n'était pas soumise aux lois ou à la loi de Dieu, mais la création est cosmos, précisément parce qu'elle est placée sous les lois de Dieu, et c'est ce qui rend la science possible. Pourquoi est-ce que nous pouvons construire des avions? C'est parce qu'il y a un certain nombre de lois physiques, chimiques, un certain nombre de lois que Dieu a établies pour la création. Et finalement, je dirais, ce n'est pas en contradiction avec ces lois de Dieu, mais en soumission à ces lois de Dieu qu'on peut construire des avions. Pourquoi? Eh bien parce que... Vous voulez, il y a une loi
de gravitation qui ferait que normalement un objet plus lourd que l'air est obligé de tomber sur la Terre. Bon, mais on tient compte de cette loi de gravitation, mais en même temps il y a d'autres lois de Dieu. Et lorsqu'un corps est animé, on arrive à animer un corps d'une certaine vitesse, eh bien il peut tenir dans l'air sans tomber sur la Terre. Sur, il faut qu'il ait la vitesse en question, parce que si vous arrêtez la vitesse de l'avion, c'est sûr qu'il arrivera au bout d'un certain temps, du moins parce qu'il sera valorisé encore par la vitesse acquise, mais au moment de la vitesse acquise, il sera fini. À ce moment-là, votre avion tombera en équilibre et la loi de gravitation jouera à plein. Autrement dit, même lorsque on fait des choses qui semblent en opposition avec une loi, c'est pas vrai, c'est pas en opposition avec une loi. Parce qu'il y a un ensemble de lois et on peut finalement utiliser les lois que Dieu a fixées, lois physiques, lois chimiques, etc. C'est la même chose pour d'autres lois de Dieu. L'homme est soumis à d'autres lois que les corps minéraux. Les végétaux, déjà, sont soumis à des lois auxquelles les minéraux ne sont pas soumis, parce que ce sont des lois justement physiques, les lois de la vie. Mais les animaux, eux, sont soumis aussi à des lois en plus, parce que il y a des lois de sensation pour les animaux, des lois qui sont sensitives, et puis quand vous arrivez à l'homme est soumis à encore d'autres lois que les animaux, parce que lui, il est soumis à toutes sortes de lois historiques, morales, etc. Bon, mais nous reverrons ça plus tard dans ce cours. Non, ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes sous des lois, que toutes les créatures de Dieu sont sous des lois, tandis que Dieu n'est pas soumis aux lois qu'il a établies pour sa créature. Mais, cependant, il ne faudrait pas dire non plus que Dieu, qu'il n'y a pas un rapport entre ce qu'est Dieu dans son autonomie, hein, puisque les lois sont là, ce que Dieu, il y a un rapport quand même entre ce que Dieu est dans son autonomie et ce que nous, nous sommes comme hommes dans notre théonomie. Pourquoi ? C'est parce que Dieu nous a créés à son image, et que par exemple, il y a des attributs de Dieu, des qualités de Dieu, hein, des arétailles de Dieu, comme parle le Nouveau Testament, hein, vous avez des arétailles de Dieu qui jouent pour nous. Par exemple, je prends un exemple, Dieu est juste. Eh bien, c'est un attribut communicable de Dieu que sa justice. D'une certaine façon, les hommes sont aussi appelés à être justes et peuvent, même s'ils sont loin d'être justes, comme Dieu peut être juste, quand même ils sont. De même, quand il nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ben, ». La miséricorde de Dieu, bien sûr, nous en sommes très très loin, mais quand même analogiquement, même de très loin, nous pouvons avoir une certaine miséricorde, etc. Donc, il ne faut pas dire non plus que il y a, bien sûr, Dieu n'est pas soumis aux lois qu'il a données à sa création, mais il y a des lois qui sont sa loi à lui, puisqu'il est loi à soi-même, qu'il a voulu faire jouer d'une certaine façon pour ces créatures particulières que sont les hommes. Parce que, justement, la différence entre l'homme et toutes les autres créatures, y compris les animaux, c'est que l'homme est créé en image de Dieu, en semblance de Dieu. Et que donc, bien sûr, il y a des choses que je ne joue pas. Par exemple, nous sommes soumis à des lois physiques, nous sommes visibles, nous sommes limités, Dieu est invisible, il est limité, donc là, ça ne joue pas. Mais il y a, à côté des attributs incommunicables de Dieu, dont nous parlerons dans la suite de ce cours, et dont nous avons déjà en dogmatique avec Paul West, eh bien, vous avez des attributs communicables. Pourquoi ? Justement parce que nous sommes créés en image de Dieu. Donc, et j'ai parlé de la justice, j'ai parlé de la miséricorde, mais je pourrais aussi parler de la science. Parce que Dieu connaît tout parfaitement. Il connaît même avant que les choses soient. Autrement dit, c'est l'inverse. Nous, nous connaissons après que les choses soient. Tandis que Dieu connaît avant que les choses soient. Alors, il y a la science de Dieu, science infinie, parfaite, exhaustive, totale, souveraine. Nous aussi, nous avons quelques connaissances. Donc, vous voyez, Dieu est justice et nous, nous avons quelque chose. Dieu est miséricordieux et nous, nous devons avoir quelque chose de sauvé. Dieu est toute science et nous, nous devons avoir. De même que Dieu est souverain créateur. Alors nous ne pouvons pas être créateur au sens où Dieu est créateur ex nihilo, c'est-à-dire que Dieu a le pouvoir de créer à partir de rien. Il dit que la lumière soit et la lumière est, tandis que nous, nous ne pouvons jamais être créateurs dans ce sens-là. C'est le sens du mot du début de la Genèse, du verbe bara en hébreu, qui signifie créer, mais créer au sens fait. Nous, nous ne sommes pas vraiment créateurs. Même quand on dit que quelqu'un crée quelque chose, ce n'est pas très juste. En réalité, on crée, mais à partir de quelque chose d'existant. Tandis que Dieu, lui, il a eu le pouvoir de créer à partir de rien. C'est la création ex nihilo. Tandis que nous, nous ne sommes pas vraiment créateurs. Nous sommes plutôt fabricateurs, nous sommes plutôt constructeurs, si vous voulez, mais nous ne sommes pas créateurs au sens le plus profond du mot créer. Alors, c'est ça le premier point. Calvin est un précurseur de la philosophie chrétienne réformée à cause de cette idée de droit. Vous verrez la place que tient l'idée de droit dans la philosophie chrétienne réformée. Et le deuxième point, comme je l'ai dit, c'est l'insistance de Calvin sur le motif création, chute, rédemption. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, ce motif est un motif à prendre dans un sens général pour chacun de ces termes. La création est universelle. Rien n'existe qui n'ait été créé. Et dans ce sens, on peut dire que la création a une réalité universelle. La création a quelque chose de total. Tout ce qui existe a été créé. La chute, c'est la même chose. La chute a quelque chose de total. Alors là, il faut faire attention, parce que en latin, puisque j'avais des théologiens jusqu'au XVIIe siècle, parlaient tous latin, vous voyez, la corruption totalise. Alors en français, c'est la corruption totale. Mais alors, le tout, c'est de se comprendre sur le mot totalise, sur le mot total. Quand Calvin enseigne que la corruption totale, il ne prend pas le mot total dans un sens intensif. Parce que si la corruption était totale au sens intensif, nous nous abîmerions dans le néant et dans la pourriture. Bon. Mais c'est une corruption totale au sens extensif. Et en cela, le Calvin est bien dans la traduction augustine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au sens extensif, non pas que la corruption de l'homme est une corruption telle que l'homme ne serait plus que pourriture. C'est pas le sens. Ça, c'est le sens intensif. Mais sens extensif, ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de l'homme, aucun aspect de la vie humaine qui n'ait été atteint par le péché. C'est-à-dire, vous voyez, ça c'est un point que certains thomistes, que certains donc disciples de Thomas d'Aquin, risquaient d'oublier. Vous vous souvenez là, du schéma qu'on avait fait, nature, grâce, etc., raison, foi, bon. Eh bien, le risque du côté thomiste, c'est que l'homme est bien corrompu, mais pas dans son intelligence. Pas dans sa raison. Comme si la raison humaine, l'intelligence humaine, si vous voulez, aurait échappé à la corruption. Tandis que Calvin dit non, la Bible nous enseigne que notre cœur, la partie centrale de notre personne, notre moi, étant corrompu, tous les aspects de notre existence et de notre être sont corrompus. Notre volonté est corrompue, nos sentiments sont corrompus, notre conscience est corrompue, notre intelligence, notre raison est corrompue. C'est dans ce sens qu'il y a corruption totaliste, corruption totale, non pas, je le répète, au sens intensif, où nous ne serions plus que pourriture, ça la Bible ne l'enseigne pas, et jamais Calvin ne l'a enseigné, mais la corruption s'étend à toutes les parties de notre être. Elle est totale, donc au sens extensif. Et vous voyez bien, je pense que c'est assez clair. Hein. Alors, c'est très important de souligner ce point d'une corruption totale, parce que, en philosophie, en philosophie, la raison humaine, en science aussi, la raison humaine va bien fonctionner. Mais comme elle fonctionne dans un état déchu, comme elle fonctionne dans une situation de péché, elle va avoir, surtout quand il s'agira de la foi, du rapport avec Dieu, et même de réflexion quant au bien, quant au vrai, quant au beau, pour reprendre ces données des philosophes de l'Antiquité, eh bien, l'homme va déraisonner. Va déraisonner. Vous allez, ça va être très intéressant. Vous allez avoir une soutenance de mémoire au mois de janvier par l'un de nos étudiants sur la déraison de l'impiété, de l'incroyance, selon saint Thomas d'Aquin. Ça sera intéressant de voir parce que justement, c'est un point qui est controversé et là, c'est une thèse qui sera très intéressante. On va par ailleurs de discours qui viendra, que pourrait prendre le jury pour la soutenance de ce livre. Donc, en philosophie, je vous l'ai déjà dit, les non-chrétiens se laissent conduire par des motifs religieux dont ils sont d'ailleurs inconscients. Les philosophes croient qu'ils ne raisonnent que par leur raison, et en réalité, ils raisonnent à partir de motifs religieux qui peuvent être le motif chrétien, création de la religion, mais qui peut être aussi un motif apostat, c'est-à-dire un motif qui n'est plus normal, un motif qui est finalement un motif d'opposition à Dieu, ou au moins d'opposition à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu. Pourquoi ? Parce que la corruption a atteint l'intelligence et la raison de l'homme, comme d'ailleurs elle a atteint la volonté de l'homme, la conscience de l'homme, les sentiments de l'homme, etc. Donc, c'est le point à souligner en ce qui concerne le cas. Ou plutôt le double point. L'idée du droit, d'une part, et l'importance, dans la pensée de Calvin, le motif création jusqu'à la fin. Alors, de même, la rédemption aussi est totale. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient nous sauver, il vient sauver notre cœur, notre moi profond, mais il vient sauver tous les aspects de notre existence. Il veut régénérer notre pensée, comme il veut régénérer notre conscience, comme il veut régénérer notre volonté, comme il veut régénérer nos sentiments. Donc, toute la création est de Dieu, toute la création est atteinte par le péché, et toute la Jésus-Christ est venu pour sauver toute la création sous tous ses aspects. Donc vous voyez en quoi le motif chrétien, création, chute, rédemption, qui est le motif central de la Bible, qui anime toute la Bible, c'est un motif qui doit comprendre le mot total à chaque création totale, chute totale, rédemption totale. Mais total, entendu dans le sens extensif. Et un petit mot pour finir, ce sera bref, sur cœur.
Alors là, je vous dis son nom, parce que quand vous prononcez cœur, je ne sais pas trop bien comment vous pouvez le dire, on va remarquer, comme vous avez dit en discours, cœur, ça c'est une Abraham cœur. Je vous donne ces dates, 1837-1920. Vous voyez qu'on fait un grand parcours historique. Augustin, c'est le 5e siècle, le début du 5e siècle. Calvin, c'est le 7e siècle. Et Kolber, à cheval, sur le 19e siècle et le début du 20e siècle.
Alors, le point pour Augustin, c'était Augustin ou l'antithèse. Le point pour Calvin, c'était Calvin, l'idée de loi et le motif création suprême. Avec Kolber, ça se précise déjà, vous voyez, c'est dans le sens que il est précurseur de la philosophie chrétienne réformée dans un sens déjà plus marqué, peut-être. C'est Kolber et la souveraineté universelle du Christ et de sa parole. Kolber et la souveraineté universelle du Christ et de sa parole. C'est une vie assez extraordinaire que celle de Kolber au départ. Je n'entre pas dans ce débat. Mais Kolber est un homme qui a fait des études à la faculté de Leyde. En français, on utilise Leyde comme ça, en hollandais, c'est Leica. Et il a fait ses études sous des théologiens modernistes, rationalistes, qui étaient d'ailleurs des hommes de grande science. Et, n'entre pas dans les détails, je ne peux pas les citer, je ne peux pas vous donner des noms, vous avez encore un arrière de voir, enfin, Scholten a été un grand docteur de l'aide, Scholten a fait ça. Et alors, il a été très jeune, à 25 ans, docteur Leclerc, et le voilà qui débarque dans une petite église, Bèze, aux Pays-Bas, donc tout jeune, à l'époque, Frédimu de l'université de Leiden, qui était docteur, et le voilà qui arrive à cette petite église de Bèze, qui est à 25 km environ au sud. Et alors, il arrive une histoire privée. Et vous allez voir, il a une petite bonne femme qui est ici. Balbus, qui va jouer un rôle. Là, il est donc à la baisse dans sa paroisse et il était très savant, très brillant, excellent orateur. Et dans sa petite église de Bèze, il commence à prêcher, comme vous n'étiez pas parce que la conscience de Dieu, il dit qu'on doit faire un pasteur, et quand il arrive dans une grosse monumentale, il va tomber sur un mec. Lui, le docteur en théologie de l'université de Leyde, il va se trouver devant une jeune femme mariée, qui avait 20 ans, qui s'appelle Kirche Mathus, qui habite une ferme là, de l'église de Bèze. Et puis il se présente, et puis. Balbus n'avait pas tellement enthousiaste en recevant un docteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'avait pas une capacité. Je suis allé à l'église écouter prêcher. Vous parlez très bien. Vous m'avez même appris à faire des choses. Il n'y a qu'un truc qui va pas. C'est que vous ne prêchez pas la parole. Alors évidemment, Kuiper est un peu soufflé par ce que lui ose lui dire. Il devait avoir, je ne sais pas, la trentaine à l'époque. Là, j'avais quand même quelques années de plus que lui. Il est un peu soufflé. Et alors, il se trouve que cette jeune église, c'est une femme qui passe du temps, peut-être une heure, pour lire sa Bible et prier, et puis qui connaît très bien. La vieille profession de foi des églises des Pays-Bas, et puis il connaît très bien que finalement, sans avoir lu le livre de Rousseau, il y a une théologie extrêmement solide, rien qu'à cause de la Bible et de la confession de foi. Et c'est très étrange, et en même temps c'est très beau. C'est le docteur en théologie de l'université de Leyde qui va finalement se laisser convertir par la jeune église. Et ça, c'est une grande, grande leçon qui nous est apprise. D'abord, parce que ça nous oblige à mettre en cause notre théologie, toujours. Et puis, d'autre part, ça nous apprend à être un. C'est pas parce qu'on est en docteur en théologie qu'on est forcément en vraie communion avec Jésus-Christ. Et c'est pas parce qu'on est une jeune paysanne qu'on est forcément dans une situation spirituelle de dépendance. On apprend beaucoup de choses avec cette histoire. Des rapports entre quelqu'un et quelqu'un. Et finalement, peu à peu, quelqu'un, il n'y a pas d'autre mot, se convertit. Lui qui ne croyait pas en la divinité de Jésus-Christ, il prend la divinité de Jésus-Christ. Lui qui ne croyait pas en la Trinité, il prend la Trinité. Lui qui ne croyait pas que la Bible était faite dans la parole de Dieu, il croit que la Bible est la parole de Dieu. Et alors, il se met, bien sûr, il continue à prêcher, mais maintenant, il se met à prêcher la parole de Dieu. Et alors, c'est très intéressant, ça c'est anecdotique. Enfin, moi j'ai une grande admiration pour Kuiper, et je connais bien sa vie. Et ce qui est très curieux, si vous voulez, c'est que elle mourra à un âge avancé. Enfin, elle mourra quand même avant Kuiper, parce qu'elle avait quand même quelques années plus. Je suis un peu le et finalement, et si vous visitez un jour la Kuiper Heuf,
à Amsterdam, c'est-à-dire la maison de Kuiper, qui est devenue un musée à Amsterdam, sur le bureau de Kuiper, jusqu'à sa mort, il y a toujours eu la photographie de Piété Bagnard. Parce que c'était pas cette jeune paysanne qui est venue à la profession. Et lui, il s'est toujours souvenu de ça au long de sa vie. Fais attention, tu es théologien, tu es pasteur, tu es docteur en biologie, tout ça. Rappelle-toi que quelqu'un de très humble, une petite paysanne, veut te rappeler, alors, veut te ramener à Jésus. Et la leçon n'a jamais pu. Et alors, là, je ne donne pas toutes les œuvres de Kuiper, mais il a fait beaucoup de choses. Mais alors, je vous recommande un petit livre qui s'appelle en anglais, parce que je n'ai pas traduit en français, mais je ne suis pas mis en anglais, alors je vais le lire en anglais, si vous ne connaissez pas le anglais. D'ailleurs, ça a été écrit, je suis bête, ça a été écrit en anglais, parce que ce sont des conférences qu'il a fait aux États-Unis, à la fin du siècle, on peut dire 1880, ça s'appelle Lecture on Calvin, conférence sur le Calvin. Et alors, c'est un livre très intéressant. Je vous donne les liens sur ce chapitre. Calvin et l'art, Calvin et la philosophie, Calvin et la politique, Calvin et la science, etc. Vous voyez, montrant, qu'est-ce que ça montre ? Le mot, la Calvin, si vous voulez, il est simplement un peu comme guide. Mais ça veut dire, attention, Dieu n'a pas seulement affaire à notre vie spirituelle, mais il a affaire à tous les aspects. Jésus-Christ ne veut pas seulement être le Seigneur de notre âme, ou le Seigneur de notre piété, ou le Seigneur de notre prière, ou le Seigneur de notre culte, ou même le Seigneur de notre église, mais il veut être le Seigneur de notre pensée, il veut être le Seigneur de tous les aspects de notre existence, il veut être le roi, le Seigneur, le chef, le capitaine, dans tous les domaines de l'existence. Dans ce sens que, si vous voulez, la leçon de Kuiper par rapport à notre philosophie, c'est la souveraineté universelle du Christ et de sa part. Le Christ Seigneur en tout et sur tout. Nous, vous savez, je vous cite pour terminer simplement la fameuse parole de Jésus qui est à la fin de l'évangile de Matthieu, je vous prenne l'évangile de Matthieu, quand Jésus est ressuscité, il va monter au ciel et il dit aux ses disciples en Galilée, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Kuiper traduisait ça en disant, il n'y a pas un pouce de terrain, il n'y a pas un point de notre existence dont notre Seigneur Jésus qui m'affirme, c'est à moi. Le droit, tout est à Jésus. Jésus qui nous dit, ça c'est à moi. Tous les coins de ta vie sont à moi. Tous les aspects de ton existence sont à moi. Tous les points de la création sont à moi. Alors ça nous ramène à ce que dit Paul dans le début de la lettre aux Colossiens, au chapitre 1 de sa lettre aux Colossiens, quand il dit, tout est par lui et pour lui. Et alors c'est en ce sens que la grande leçon de Dieu, c'est la royauté, la souveraineté universelle de Jésus. Alors vous verrez dans la suite de ce cours que vraiment, Augustin d'abord, Calvin ensuite et Kuiper enfin ont été vraiment les trois grands précurseurs de la philosophie chrétienne.